Good Morning Business, le grand entretien.
Il est 7h45 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invitée ce matin, c'est Catherine McGregor. Bonjour, vous êtes la directrice générale d'Engie, premier fournisseur d'électricité verte et de gaz naturel en France, acteur majeur évidemment de la transition énergétique en Europe. On va commencer avec l'actualité internationale. Vous êtes depuis 2 mois plutôt sereine sur les questions d'approvisionnement de gaz en Europe. Au bout de 2 mois de conflit, vous ne voyez pas de questions de rupture d'approvisionnement, mais est-ce que vous voyez des prix monter dans les prochains mois ?
Alors, peut-être remettre le sujet en perspective. Hein. Donc, évidemment, la crise au Moyen-Orient a des enjeux et des impacts majeurs, des impacts évidemment humains, des impacts sur un certain nombre de produits de matières premières. Oui. Et sur le plan énergétique, c'est effectivement d'abord et avant tout une crise du pétrole et une crise du gaz naturel liquéfié. Le crise du pétrole a énormément d'impact, et je ne vais pas revenir sur les sujets carburants, etc. Ensuite, quand on regarde le sujet du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, il faut bien le remettre en perspective. Hein. C'est à peu près 20% du marché mondial de GNL qui est concerné par les sujets au Moyen-Orient, d'abord d'une part. Et ensuite, le GNL, c'est une partie finalement assez petite du marché du gaz mondial. Donc, bien remettre les choses en perspective. Après, pour l'Europe, le GNL joue un rôle important. Le GNL est évidemment un marché mondial et donc l'Europe en 2025 reposait quand même beaucoup sur ses approvisionnements sur le GNL. Donc effectivement, c'est un sujet très important. Donc ce que nous avons dit, nous, et ce que nous continuons à dire, c'est qu'aujourd'hui, le marché se rééquilibre. Il se rééquilibre pourquoi ? Parce que d'abord, il y a ces sujets de diversification d'approvisionnement que l'Europe a pu faire au cours de ces dernières années, d'une part.
Notamment auprès des États-Unis.
Auprès des États-Unis, d'une part, et puis avec d'autres fournisseurs. Et d'autre part, il y a évidemment une demande qui s'ajuste quand même un petit peu, parce que les prix, quand les prix augmentent, vous avez aussi
une demande
qui baisse, avec en particulier en Asie. Jusqu'à présent, l'Asie a pu changer un petit peu leur mix énergétique en s'appuyant malheureusement un peu plus sur le charbon. Donc, il y a eu une certaine élasticité. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nous, on n'envisage pas du tout de rupture d'approvisionnement sur le gaz. En revanche, bien sûr, de la volatilité sur les prix, volatilité qu'on a vue, alors, dans une bien moindre mesure que ce qu'on avait vu en 2022. Donc, on a vu les prix du gaz qui ont augmenté jusqu'à 50. En ce moment, on est à peu près sur 50 euros du mégawatt-heure. Donc, à surveiller, mais effectivement, aujourd'hui...
Rien à voir entre les deux situations, entre aujourd'hui et en 2022, parce qu'on a diversifié nos approvisionnements.
Et effectivement, donc, on est dans une situation différente. En revanche, encore une fois, on a une certaine attente sur la volatilité des prix qui peuvent réaugmenter un petit peu, mais on est, disons, relatif plus serein que ce qu'on était en 2020.
On a diversifié, mais on est aujourd'hui sur le GNL quand même très dépendant des États-Unis. Ça ne vous inquiète pas ?
Alors, on a augmenté nos importations des États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis sont un partenaire fiable en ce qui concerne les exportations de GNL. Il faut bien regarder le prix du gaz naturel aux États-Unis qui est, lui, plutôt très bas. Et donc, ce qui nous rend assez confiants sur la capacité des États-Unis à continuer à exporter, puisqu'ils ont suffisamment de gaz naturel. Mais il faut bien surveiller et que c'est effectivement le prix du gaz naturel aux États-Unis est un indicateur important pour s'assurer que nous continuons à avoir ces approvisionnements qui nous viennent des États-Unis et d'autres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, chez Engie, par exemple, on se repose sur le gaz naturel liquéfié à hauteur d'environ 20%. Donc, ça a augmenté. Et puis, on a les États-Unis, on a d'autres partenaires, l'Algérie, par exemple, de qui on importe. Et sinon, on importe également beaucoup encore de gaz via les gazoducs de producteurs européens, les Anglais, les Norvégiens, les Hollandais, par exemple, sont des fournisseurs importants pour le portefeuille d'Engie. La clé, c'est la diversification. Et pardon, je vais quand même aussi parler du biométhane. Le biométhane, c'est du gaz.
Oui.
C'est du gaz qui est produit localement, en France, sur nos territoires. Et donc, développer au maximum le potentiel du biométhane...
Ça aide à la souveraineté énergétique.
Exactement. C'est absolument critique. Et s'il y a un message, moi, que je voudrais passer aujourd'hui...
C'est accélérer sur le biométhane.
Il y a des mécanismes régulatoires dont on a besoin. Le gouvernement travaille dessus. Il y a une consultation qui est en cours. Je ne peux que encourager le gouvernement à continuer dans cette voie. Les agriculteurs ont besoin de visibilité pour s'engager sur les projets de biométhane. Et je vous rappelle, le biométhane, c'est la même molécule que le gaz naturel. Et qu'est-ce que le biométhane produit en même temps ? C'est des engrais. le digesta, qui est un produit secondaire de la production de biométhane.
Donc double sujet de souveraineté.
Double sujet de souveraineté avec des engrais qui sont des engrais, donc qui ne sont pas des engrais chimiques, qui sont des engrais, donc du coup, presque j'allais dire organiques, et surtout qui sont produits localement et qui sont immunisés par rapport aux prix qui sont en train d'augmenter des engrais importés.
En un mot, Catherine McGregor, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, inquiétude sur les stocks de gaz, non. On a des stocks suffisants, on est à 35%
et on remplit. On est en train de remplir les stockages, effectivement. Alors, on est à des niveaux un petit peu moins élevés que l'année dernière, donc il faut bien qu'on continue de remplir ces stockages. Aujourd'hui, pas d'inquiétude et on monite évidemment la situation attentivement.
Dans les grosses opérations, vous venez d'en réaliser une majeure, 12 milliards d'euros en Grande-Bretagne. Vous avez racheté UK Power Network. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une sorte d'Enedis un petit peu là-bas que vous avez racheté. C'est quoi l'objectif de cette opération ?
Exactement. Donc, c'est un actif de distribution d'électricité. Donc, un Enedis, alors plus petit parce qu'il ne couvre que 3 régions en Angleterre, mais ça comprend la région de Londres. Donc, nous sommes désormais distributeurs d'électricité à tous les londoniens. Donc, un rôle absolument majeur. Donc, c'est un actif, ce qu'on appelle un actif régulé. Et c'est complètement en ligne avec la stratégie d'Engie, qui est de se développer dans l'électrique, bien sûr, et également dans les actifs régulés, qui vient renforcer ce profil utility qu'on aime bien chez Engie, qu'on assume complètement. Et donc, très, très important, très en ligne avec la stratégie du groupe de s'électrifier.
En Belgique, vous avez vendu vos activités dans le nucléaire au gouvernement belge. Quand on voit qu'on accélère dans le nucléaire en Europe, est-ce que c'est pas à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui ?
Alors, on n'a pas encore vendu.
C'est en cours, il y a des négociations financières.
En discussion, et donc la route est longue, et on va voir si effectivement on arrive à mener à bien ce projet. C'est, encore une fois, là, on est très en ligne avec notre stratégie, qui était de dire que le fait nucléaire aujourd'hui est un fait qui nous paraît plus un fait national, un fait étatique, simplement parce que les projets d'investissement dans le nucléaire sont des projets qui sont très longs, très complexe, avec beaucoup d'incertitudes sur le calendrier et sur les risques associés, notamment autour de la gestion des déchets. Donc, lorsque le gouvernement, il y a quelques années, belge, avait décidé de sortir du nucléaire, nous avions pris cette décision, effectivement, d'arrêter tout nouveau investissement dans le nucléaire. Aujourd'hui, nous accompagnons le gouvernement belge à la fois dans ses décisions de sortie du nucléaire, lorsqu'elles ont été prises à l'époque, et ensuite de vouloir prolonger deux nouvelles centrales. Donc ça, c'est l'accord aujourd'hui qui est en œuvre, que nous mettons en œuvre aujourd'hui, c'est de prolonger 2 centrales sur les 7 que nous opérons. Et puis là, tout récemment, une nouvelle demande du gouvernement belge qui effectivement s'est dit intéressé à reprendre l'ensemble des activités nucléaires, donc celles que nous opérons, celles que nous démantelons, pour s'assurer finalement un futur dans le long terme sur le nucléaire, sujet sur lequel nous n'étions pas intéressés. Donc finalement, un accord, si on arrive à le trouver, qui est très, encore une fois, cohérent avec à la fois notre stratégie et puis la nouvelle stratégie du gouvernement belge. On voit bien quand même que ces sujets énergétiques doivent absolument s'inscrire dans le long terme, qu'il ne faut pas faire du stop and go, s'arrêter, que c'est très compliqué. Donc aujourd'hui,
Alors justement, vous dites qu'il ne faut pas faire du stop and go sur les politiques énergétiques. Quand vous voyez aujourd'hui des partis en France comme le Rassemblement National, avec lequel vous avez discuté, parce que vous étiez au dîner des patrons et du Rassemblement National il y a quelques semaines, quand vous entendez qu'ils veulent faire un moratoire sur le renouvelable, qu'ils veulent même démanteler certains parcs éoliens, qu'est-ce que vous leur répondez ? Quel argumentaire vous mettez en avant et est-ce que vous êtes écouté ?
Alors, d'abord, nous, on parle à tous les partis politiques et effectivement, un des messages clés, c'est qu'on a besoin de stabilité, on a besoin de visibilité. Il ne faut pas opposer les énergies les unes aux autres. On ne va pas pouvoir faire relever l'enjeu de la décarbonation, de l'électrification avec uniquement le nucléaire. On le sait très bien, puisque le nouveau nucléaire, important pour la France, n'arrivera qu'à partir de 2038, je crois. On va donc avoir besoin de tous les nouveaux moyens de production, notamment puisqu'on insiste et on pousse sur l'électrification. Si vous augmentez la demande d'électricité, il faut évidemment accompagner cette hausse de la demande avec le développement de nouveaux moyens de production. Or, aujourd'hui, à court terme, seuls les renouvelables électriques peuvent apporter cette solution. Donc ça, c'est vraiment un point très important. On va pas pouvoir, on n'a pas le luxe aujourd'hui de dire ah ben moi c'est telle technologie et je vais faire que cette technologie. Non, il faut équilibrer le mix électrique et évidemment accompagner cette électrification et ces nouveaux moyens de production électrique avec bien sûr la décarbonation du gaz. Et là, j'insiste encore, hein, le gaz vert, le biométhane.
Mais vous lui avez dit tout ça à Marine Le Pen ?
Alors nous, on dit ça à tout le monde.
Oui.
Voilà, on dit ça à tout le monde.
Mais ils sont pas tous anti-renouvelables. Il y a un parti en France qui l'est particulièrement.
La chose, le moratoire qui a été discuté début juillet n'a pas été porté uniquement par un parti. Hein. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait eu un certain succès derrière cette idée qui nous a paru absolument mauvaise. Et en même temps, on regarde cette mauvaise idée. Il y a eu aussi une très forte mobilisation, pareil, de plusieurs. C'était même pas une mobilisation politique, j'allais dire, de plusieurs institutions, corps sociaux, les agriculteurs qui ont dit mais enfin, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va arrêter le développement de nouveaux moyens de production. On ne peut pas faire une politique énergétique en stop and go, on ne peut pas, puisqu'on a besoin de développer des nouvelles filières, et ça, ce n'est pas bon. Et encore une fois, je reviens sur les discussions moi, que j'ai eues hier, j'étais en visite dans la Somme, j'ai discuté avec des agriculteurs qui sont très impliqués sur le biométhane. La chose numéro une qu'ils nous demandent, et qu'ils demandent au gouvernement, c'est donnez-nous la visibilité. On a besoin de visibilité. Visibilité, c'est stabilité. On ne peut pas changer la politique énergétique tous les ans, et on a besoin de stabilité, c'est très important.
Dernier point, Catherine McGregor, parce qu'on a largement explosé le timing. Vous voyez revenir le débat sur la question de surtaxer les profits de Total Energy. Alors là, vous seriez pas dans la même situation parce que Total Energy profite de la hausse du cours du pétrole, c'est spécifique. Mais quand vous voyez le débat revenir, vous avez déjà payé vous ce type de taxe dans le passé. Et quel est le message que vous avez envie de faire passer?
Le message, c'est que les entreprises sont une chance pour la France, pour l'économie. Nous investissons, nous payons des taxes, nous avons des collaborateurs engagés. Vous avez vu, il y a une étude qui est sortie ce matin qui montrait à quel point les collaborateurs, les salariés en France sont quand même très engagés. Ils aiment leurs entreprises. Les entreprises font travailler un nombre très important de fournisseurs. Donc, il y a tout un écosystème associé aux grandes entreprises. Les grandes entreprises sont aujourd'hui assez pénalisé en France, donc il ne faut pas en rajouter, il faut protéger et aimer les grandes entreprises en France.
Merci beaucoup Catherine McGregor d'être venue dans la matinale de l'économie.